Et c'est une semaine que nous allons passer dans un des lieux emblématiques de la culture en Limousin, à Limoges. En l'occurrence, nous sommes installés au Musée des Beaux-Arts en compagnie de Véronique Notin, qui est la conservatrice des lieux depuis 1988 et qui va nous permettre de découvrir ce site, si vous ne le connaissez pas encore. À commencer, Véronique Notin, par son histoire, évidemment, qui ne date pas d'hier. On va vraiment remonter largement dans le temps pour parler de ce lieu.
Oui, le musée est un lieu chargé d'histoire. C'est une vieille institution. Il a été créé en 1845 par le préfet de l'époque, le père de la peintre Berthe Morisot, qui a créé la société archéologique et le musée qui était associé pour rassembler les éléments d'histoire, de culture de ce département. Et ce musée est en fait à l'origine des deux musées actuels de Limoges, le musée des Beaux-Arts où nous sommes et le musée Adrien Duboucher, qui est aujourd'hui spécialisé dans la porcelaine et le verre. À l'origine, les collections étaient communes. Et c'est une histoire un petit peu compliquée, mais en substance, le musée fondé par la société archéologique, impulsé, dirigé longtemps par Adrien Duboucher, a permis à ce musée de se développer de façon considérable dans le domaine de la porcelaine. La ville de Limoges a créé de son côté un musée municipal en 1912 qui a été installé dans le palais épiscopal qui aujourd'hui abrite entièrement le musée après la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 qui a fait que ce palais était vacant. La ville a racheté les lieux parce qu'il y avait un jardin magnifique autour, jardin qui est toujours magnifique et qu'apprécient beaucoup les visiteurs de Limoges. Et dans ce lieu ont été conservés des éléments du patrimoine de la ville qui avaient tendance à disparaître puisqu'on était à un moment de très très grands travaux d'urbanisme dans la ville avec notamment des maisons médiévales qui étaient démolies pour tracer des rues et donc beaucoup de vestiges lapidaires, de sculptures dont tout le monde avait la volonté de les conserver. Et la société de l'arbre et de l'eau, qui rassemblait des savants, qui s'occupaient de minéralogie, qui s'occupaient de la gestion des forêts, qui s'occupaient de météorologie, enfin donc une société scientifique extrêmement vivante, vivace, a milité pour la création d'un autre musée. Donc c'est comme ça que le musée municipal est né. Et l'histoire des deux musées s'est retrouvée quand, après la Seconde Guerre mondiale, Marie-Madeleine Gauthier, qui était la bibliothécaire de Limoges, qui était l'épouse de Serge Gauthier, qui lui-même était adjoint à la culture à la ville de Limoges, ont réalisé une exposition extraordinaire au musée municipal de Limoges, donc le musée de l'évêché, une exposition consacrée aux émaux du Moyen-Âge, dans laquelle était conservé l'ensemble des émaux limousins du Moyen-Âge, donc conservés dans les églises de la région, et les œuvres qui avaient été planquées, je dirais, pendant la guerre et qui appartenaient au grand musée parisien. Et donc cette exposition extraordinaire qui a fait venir vraiment le monde entier a donné l'idée de réorganiser les deux musées de la ville et de faire ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire un musée national dans lequel ont été rassemblés la céramique qui était la grande dominante des collections et le verre, un peu au détriment de tout le reste, il faut bien le dire, et l'ensemble des autres collections, c'est-à-dire toute l'archéologie, toute la peinture, toute la sculpture, la numismatique, enfin tous les autres éléments de collection ont été versés au musée municipal. Donc aujourd'hui, nous avons un musée municipal dans lequel sont conservés finalement tous les volets du patrimoine de la région, hormis la céramique et le verre.
Il y a évidemment le contenu du musée, mais il y a le contenant également, ce bâtiment qui, à lui seul, vaut déjà des tours.
Oui, c'est un lieu magnifique dans la ville. C'est un très beau palais du XVIIIe siècle, donc l'ancien palais des évêques de Limoges, qui a connu diverses étapes qui ne sont pas très bien connues. Un palais reconstruit à la Renaissance, qui apparemment était assez ambitieux dans son projet, dont on pense qu'il n'a jamais été réellement terminé, qui au XVIIe siècle a connu quelques travaux d'aménagement, mais qui au XVIIIe était considéré comme vétuste et pas très confortable. Donc, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les frères Brousseau, les grands architectes de la région, sont chargés par l'architecte de l'époque de cette reconstruction, qui est faite, mais pas tout à fait terminée, au moment de la Révolution. Et aujourd'hui, ce bâtiment qui a été investi progressivement par le musée municipal, mais il faut savoir que, par exemple, dans les années 50, il y avait encore un conservatoire ici, dans le palais épiscopal. J'ai des personnes qui m'ont raconté avoir souvenir, avoir mangé dans les sous-sols du musée qui était à l'époque la cantine d'une école. Donc, en fait, il y a eu plusieurs attributions diverses qui ont cohabité dans le palais. Et ça n'est qu'en 1963, réellement, que le palais a été entièrement dévolu au musée. Et en 1998 a a été prise la décision d'une rénovation complète de ce musée, c'est-à-dire restauration du palais historique qui est classé monument historique, et finalement mettre un petit peu en adéquation, en harmonie, et puis au goût du jour, parce que très honnêtement, c'était un musée vieillot, qui avait un charme fou, mais qui n'était pas du tout ni fonctionnel, ni rationnel dans ses aménagements. Et donc il y a eu un grand projet de rénovation qui a occupé toute l'équipe du musée entre 2003, on va dire, on a réellement commencé à travailler sur le sujet, et 2010, puisqu'en décembre 2010, nous avons inauguré le musée rénové.
Et le musée de l'évêché est donc devenu le musée des beaux-arts, le bal, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, on s'est familiarisé avec cette nouvelle appellation?
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que pour les visiteurs extérieurs à la ville, le musée de l'évêché, alors évidemment il parle à tout le monde ici, mais le musée de l'évêché c'était peut-être d'abord un musée d'art religieux, ce qu'il est en partie, mais qu'en partie seulement. Donc en fait il n'était pas du tout révélateur du contenu des collections. L'aspect beaux-arts des collections, Renoir est né à Limoges, on a des œuvres de Suzanne Valadon, des œuvres de Guillaumin, donc tout le volet beaux-arts des collections disparaissait complètement, et finalement les visiteurs boudaient un peu le site simplement parce que le nom du musée n'était pas parlant. Et donc on a pris le parti, après l'exposition dans laquelle nous avons présenté des émaux du Petit Palais à Paris, donc musée municipal, mais dont le nom du musée est le Petit Palais de Paris, musée des beaux-arts de la ville de Paris, d'adopter une appellation qui soit un petit peu comparable, c'est-à-dire musée des beaux-arts de Limoges, Palais de l'Évêché.
Un mot sur l'équipe, combien de personnes pour faire tourner ce musée au quotidien?
Alors nous sommes 26, avec une toute petite équipe de conservation, puisque nous sommes deux conservateurs et un attaché de conservation, plus le personnel administratif et le personnel technique, comme un régisseur des collections, par exemple, qui nous aide pour le montage des expositions ou pour tout l'entretien des œuvres en réserve. Et puis, le gros de la troupe, ce sont les agents d'accueil, plus une équipe de sécurité qui est là notamment la nuit et qui assure la sécurité dans l'ombre du bâtiment, un poste tout à fait important, même si on ne les voit pas.
Et la sécurité est très importante, évidemment, on en parlera, hein, effectivement, qui est très présente ici. Pour terminer, votre rôle à vous, en tant que conservatrice depuis 88, ça consiste en quoi?
Alors le conservateur d'un musée, il a un rôle très, très large, puisque comme son nom l'indique, il conserve, c'est-à-dire qu'il est en responsabilité d'assurer la bonne conservation du patrimoine qui lui est confié, qu'il l'enrichit, qu'il entretient, qu'il restaure, qu'il présente, qu'il explique et qu'il transmet à ses successeurs pour que nos concitoyens, nos enfants, nos petits-enfants puissent les découvrir à leur tour. Donc c'est un rôle de passeur, de transmission, à cheval entre la recherche scientifique, puisque nous sommes au départ des scientifiques, et des médiateurs. Nous faisons le lien entre les œuvres et le public, et donc on essaye de donner des clés de compréhension, de bonne lisibilité de ce patrimoine qui nous est confié, qu'on essaye de mettre en valeur pour que les visiteurs de Limoges, mais aussi ceux qui ne connaissent pas la ville et qui viennent visiter Limoges, découvrent un petit peu de notre histoire et de notre richesse.
On va le découvrir ensemble tout au long de la semaine, évidemment. On va découvrir ses collections, on va évidemment les survoler, hein, il faudra venir les découvrir ici, et ça commencera ensemble demain, même endroit, même heure. Et c'est notre deuxième rendez-vous de cette semaine, installé au musée des Beaux-Arts à Limoges, au pied de la cathédrale de Limoges. On resitue ex-musée de l'Évêché avec Véronique Notin, la conservatrice des lieux depuis 1988. On a beaucoup parlé de l'histoire de ce site et de ce bâtiment qui nous accueille. Et il y a évidemment le contenu, ce sont ces collections particulièrement nombreuses et riches que vous présentez ici. Et ça commence là, au cœur de ces antiquités égyptiennes.
Oui, c'est vrai qu'on démarre avec une sorte d'incongruité finalement de partir en Égypte au cœur de Limoges. Nous devons cela à un généreux donateur, Perrichon, qui a fait une large partie de sa carrière en Égypte et qui est revenu avec, comme beaucoup au XIXe siècle, toute une série de pièces issues de fouilles qui avaient été réalisées en Égypte. Donc on a là une collection importante avec par exemple des modèles qui sont ces petites scènes de la vie quotidienne fabriquées en bois comme avec des petite poupée, ou comme a pu me le raconter un jour un artiste qui a eu l'occasion de réfléchir et de travailler sur cette collection, qui venait au musée quand il était enfant et qui a toujours vu ces petits modèles comme des Playmobil. Et en effet, c'est un petit peu la même allure, la même taille et la même configuration. Ce sont des pièces d'une grande rareté que nous envient beaucoup de musées, très fragiles puisqu'elles sont en bois, donc auxquelles il faut prêter beaucoup d'attention. Mais nous avons également toute une collection de masques funéraires en cartonnage, en bois, peint, encore un petit peu pour certains, en stuc. donc qui vont de l'époque classique à l'époque romaine, de l'Antiquité égyptienne. Donc c'est une collection tout à fait intéressante qui aura encore besoin d'un catalogue, mais c'est un travail auquel on s'est attaqué et qu'on espère pouvoir mener à bien un jour.
Avant de poursuivre le voyage, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, on disait la fragilité de ces œuvres-là, la conservation. Vous êtes conservatrice, évidemment un rôle extrêmement important. Comment ça se passe? Quel est le soin, le travail qui va être apporté à toutes ces œuvres que l'on voit?
C'est d'abord d'essayer de créer autour de ces œuvres un environnement climatique qui leur permette d'être protégés, donc d'éviter, c'est le danger le plus grave, les variations hygrométriques. Puisqu'on comprendra facilement avec des objets en bois, le bois gonfle à l'humidité. Si on a une couche de peinture qui est posée sur ce bois, la peinture ne va pas bouger de la même façon lorsqu'elle est soumise à l'humidité. Lorsque le bois gonfle, la peinture claque. Ou inversement, lorsqu'un bois est humide et qu'il sèche trop vite, il se rétracte et de la même façon, il fait claquer la peinture qui est posée dessus. Et même sur des matériaux comme l'émail qu'on pourrait croire insensibles à ce genre de phénomène, on s'est aperçu que certains émaux, enfin la matière même de l'émail, c'est-à-dire la matière vitreuse, peut se détériorer. Donc on a essayé de comprendre pourquoi des émaux pouvaient se détériorer et on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène conjoint liés justement à ces changements d'hygrométrie qui font réagir certains éléments constitutifs du verre et qui le dénaturent. Donc on a été très attentifs aux matériaux constitutifs des vitrines pour éviter que des cols, que tous les bois composites par exemple, dans lesquels il y a de très très grosses quantités de cols, on s'est aperçu qu'ils sont absolument catastrophiques pour la conservation des œuvres, comme ils sont dangereux d'ailleurs pour les humains. Donc il n'y a rien d'extraordinaire finalement, c'est presque une évidence. Mais on a été très attentifs au moment de du réaménagement du musée aux matériaux qui étaient employés, aux conditions d'environnement climatique. Donc on a des installations assez lourdes dans ce sens, comme aujourd'hui dans la plupart des musées qui bénéficient de ce genre de grandes opérations de rénovation.
Vous vous baladez, vous avez toujours un petit œil, on surveille toujours si tout va bien, telle la maman qui veille sur les enfants.
Oui, oui, et c'est d'ailleurs un des rôles importants aussi des agents d'accueil qui circulent dans les salles. Ils nous alertent aussitôt qu'ils voient un objet qui leur semble avoir changé d'aspect, qui aurait bougé dans sa vitrine, parce qu'on a des parquets anciens qui vibrent. Donc on peut aussi avoir des petits mouvements dans les vitrines. Donc le bon fonctionnement est tributaire aussi de la grande vigilance de nos agents d'accueil.
Alors on va continuer peut-être le voyage, hein, puisque certes il y a ces antiquités égyptiennes, mais quand même nous sommes à Limoges. Il était bien normal que le musée, et c'était son souhait d'origine, propose l'histoire de Limoges, et c'est ce que propose l'une des collections ici.
Alors l'histoire de Limoges a été une des collections presque la plus difficile à installer parce que ce qui aujourd'hui paraît comme un parcours relativement fluide et cohérent avec les différentes époques d'aménagement de la ville et de l'histoire de la ville est composé d'objets extrêmement hétéroclites. Donc comment créer un fil conducteur au milieu de vestiges archéologiques, d'objets d'ethnologie urbaine, de peintures ce sont les maquettes montrant la ville à différentes époques, donc au moment de sa fondation, à différentes étapes du Moyen-Âge, au XVIIIe, au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et les objets ont été arrangés pour venir éclairer ces différentes étapes d'évolution de l'urbanisme de Limoges, et puis ensuite de donner une harmonie dans l'installation de ces œuvres très différentes. Et là aussi, les architectes nous ont beaucoup aidés pour trouver la bonne disposition des vitrines, des bons socles, les bons supports, pour profiter aussi d'espaces absolument magnifiques, puisque nous sommes dans les caves du palais, et les voûtes sont superbes. Tout ça, c'était des espaces qui n'étaient pas ouverts au public précédemment, et que les travaux du musée ont vraiment révélé, avec des plâtriers qui ont travaillé à l'ancienne, qui ont fait un travail extraordinaire, par exemple, dans ces espèces de boyaux qui sont situés sous les fenêtres que l'on peut voir dans certains espaces, qui en fait sont au ras du sol quand on est à l'extérieur du musée, mais qui correspondent aussi à des percées à travers quelquefois un mètre d'épaisseur de mur. Donc on les a vus travailler presque enfilés dans ces manchons de plâtre qu'ils ont replâtrés de façon traditionnelle. Ça a été un travail magnifique.
Et puis cette histoire de Limoges, on se rend compte que la ville a vraiment beaucoup évolué. Hein.
Oui, alors avec Limoges, on est dans une ville qui est compliquée à comprendre. Et n'étant pas d'ici, quand je suis arrivée à Limoges, j'avais énormément de mal à comprendre où était le centre-ville. Jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait deux centres-villes et en fait deux villes complémentaires. Et ça a été un petit peu le point de départ de la création de ces maquettes, pour essayer de comprendre comment le tracé des rues d'aujourd'hui peut correspondre à des rues pour certaines qui sont déjà des axes de circulation antique, comment ils ont été transformés pour la ville médiévale, comment ensuite les deux villes se sont rassemblées, comment ensuite l'industrie porcelainière ou les rivières ou différents éléments de l'activité ou du paysage ou l'arrivée du chemin de fer ont pu amener à des modifications radicales de l'équilibre général de la cité.
À découvrir, encore une fois, ça ne se raconte pas, ça vient se découvrir ici. C'est une des collections qui a la préférence, on va dire, des visiteurs.
Je ne sais pas si elle a la préférence, en tout cas, je pense que c'est la collection qui a le plus surpris. Les émaux, les visiteurs s'y attendaient, la peinture, on l'avait annoncé, le nom du musée l'annonçait aussi, donc finalement, ça a été une surprise. Et en effet, aujourd'hui, on a de très nombreux visiteurs qui nous font la remarque que cette partie-là les intéresse beaucoup et qu'ils y passent beaucoup de temps, je reconnais.
Et ce n'est pas la seule partie, évidemment. Il y a beaucoup de choses, les beaux-arts, les émaux, vous le disiez. Mais pour en savoir un peu plus, le rendez-vous, ce sera ensemble demain. Et nous sommes ensemble pour toute une semaine de découverte du musée des Beaux-Arts au pied de la cathédrale de Limoges, en compagnie de Véronique Notin, la conservatrice de ce musée depuis 1988. On a déjà parcouru une partie des collections, hein. On était dans les antiquités égyptiennes et dans cette partie consacrée à l'histoire de Limoges hier, et on va continuer ensemble la balade, comme vous le ferez vous aussi en venant ici, en passant évidemment par la collection incontournable qui dit musée des Beaux-Arts, dit collection liée aux Beaux-Arts.
Alors c'est une collection qu'on a essayé de remettre en valeur au moment de la réouverture du musée. La collection de peinture n'est pas forcément la plus connue du musée. Et donc il était important d'insister sur cet aspect-là du patrimoine de la ville avec des personnalités remarquables. Renoir est né à Limoges et c'était important par exemple que cet aspect-là de notre histoire apparaisse. Suzanne Valadon, qui était une amie de Renoir, qui a également des origines très, très ancrées dans la région, puisqu'elle est originaire de Bessines-sur-Gartempe. On a parlé d'Élie Lascaux il y a quelques années à l'occasion d'une exposition. C'est peut-être un artiste moins connu, mais il est important aussi parce que c'était un très proche de Picasso, qu'il a sauvé la vie à Kahnweiler en le cachant pendant la guerre tout près de Limoges. Donc on a comme ça une série de personnalités fortes. Et évidemment, l'œuvre peinte de ces artistes trouve sa place toute naturelle au Musée des Beaux-Arts.
En parlant du public qu'on fait venir ici, on arrive à tirer un jeune public, par exemple, au Musée des Beaux-Arts ?
Alors, on a un gros travail à l'égard des jeunes visiteurs. C'est notre public de demain, donc on est là pour les sensibiliser, pour accompagner les enseignants pour lesquels des œuvres du musée peuvent être des supports complémentaires à leur programme scolaire. Donc on a aussi des partenariats avec l'éducation nationale pour accueillir des enfants tout jeunes ou des enfants un peu plus avancés, avec les étudiants également qui sont en formation artistique et qui au musée peuvent trouver des sources d'inspiration, des modèles. Le contact avec l'œuvre d'art est quelque chose d'unique. Et donc aucune reproduction, aucune explication ne remplacera jamais le choc qu'on peut avoir pour des raisons quelquefois tout à fait inexplicables d'une certaine façon, la rencontre d'une personne et d'une œuvre qui font que cette rencontre devient un moment magique, devient une expérience personnelle extraordinaire. Et donc ce sont ces expériences-là qu'on essaye de favoriser en donnant des clés de lecture, des clés de compréhension, des éléments qui favorisent ce contact direct. Et faire venir le public au musée, c'est aussi favoriser cette rencontre.
Avant de quitter les Beaux-Arts pour prendre la direction des émaux, si je devais vous demander votre pièce coup de cœur dans ce secteur-là ?
La pièce coup de cœur, c'est toujours la dernière qui est arrivée. En l'occurrence, une pièce qui a été acquise en vente publique l'année dernière, qui a été préemptée, donc c'est une procédure tout à fait propre à la réglementation française, qui permet d'intervenir dans une vente publique en fin de vente, quand le marteau est tombé, et de se substituer au dernier acquéreur. Donc en fait, le musée n'a pas surenchéri, n'a pas fait monter le prix, et a bénéficié de l'enchère sans en perturber du tout le déroulement. Et cette œuvre est un émail qui représente Alof de Vignacourt, donc c'est un personnage qui est bien connu par le portrait qui en a été fait par Caravage, portrait qui est conservé au Louvre. Et cet Alof de Vignacourt était grand amiral de l'ordre de Malte, et il s'est illustré dans une victoire très importante qu'il a remportée sur la flotte ottomane. Et cet émail présente un grand texte avec Alof de Vignacourt qui est en prière et qui remercie pour cette victoire tout à fait spectaculaire qu'il a pu gagner.
donc votre œuvre chouchou, en attendant la prochaine, évidemment, on l'a compris. Alors on va justement se diriger vers ces émaux. Un petit mot sur cette collection également, ô combien importante évidemment pour le Limousin et Limoges.
Alors c'est la collection qui évidemment distingue le musée de tous ces musées de beaux-arts qu'on peut trouver un peu partout en France, puisque c'est vraiment la spécificité de Limoges à côté de la porcelaine. Et c'est une histoire qui commence au Moyen-Âge, qui existe encore aujourd'hui. Et c'est vraiment là que Limoges se distingue de toutes les villes dans lesquelles on a pu faire de l'émail, puisque ce n'est évidemment pas le seul centre de production, mais c'est le seul au monde où on a une production aussi durable, puisque ça fait pratiquement un millénaire qu'on fait de l'émail à Limoges, et qui, à chaque époque, a présenté des caractéristiques spécifiques. Donc on a en presque 3 vagues successives d'émail, et à chaque fois, on parle des émaux limousins comme d'une production extraordinaire, largement diffusée, un peu partout en Europe quand il s'agissait du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Et des émaux qui ont contribué à la réputation de la ville vraiment de façon extraordinaire, durable. Et les collections du musée sont un peu le reflet de cela, en même temps que les émaux de Limoges conservés ailleurs dans le monde sont des ambassadeurs de la ville. Donc on a là une histoire très riche qui raconte un savoir-faire fabuleux qui met en lien les artistes, artisans de Limoges avec les plus grands mécènes, les rois, les papes, les princes, les grands marchands, les grands collectionneurs, et ce depuis le Moyen-Âge.
Avant de terminer, en prenant la direction des autres collections, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de choses à découvrir ici, on a parfois l'impression que la culture, c'est compliqué d'amener le public à la culture. Là, il suffit de voir les Journées du Patrimoine, par exemple, qui attirent une population absolument énorme sur ce musée, comme dans d'autres, évidemment, on parlait d'Adrien Duboucher, entre autres. Ça, c'est réconfortant.
Bien sûr, et c'est tout l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que ce musée très varié puisse répondre au goût de chacun. Et on est avec des collections publiques, donc je pense que chacun peut aussi comprendre que ce qui est présenté là est un petit peu de son propre patrimoine, un petit peu de son histoire. Donc c'est aussi une question de miroir. Voilà, ce musée, c'est le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous voulons être. C'est une façon de nous présenter à nos contemporains, de nous projeter dans l'avenir en nous appuyant sur l'extraordinaire richesse de notre passé. Donc c'est aussi une leçon d'espoir et de confiance dans nos capacités à rayonner et à créer comme nous l'avons toujours fait.
Et puis évidemment, une œuvre, elle a une histoire, mais parfois on se l'approprie aussi. Chacun peut y voir ce qu'il veut, créer peut-être, laisser son imagination déambuler. C'est aussi ça, la force de l'art.
Oui, oui. Le musée est une formidable leçon de liberté. Quand on voit les artistes qui s'expriment avec peut-être des règles qu'il y avait à l'époque où ils ont travaillé, mais aussi la façon dont ils ont su s'affranchir de ces règles et à chaque fois faire quelque chose de personnel, je pense qu'on est là avec une bonne leçon pour nous aussi. On a un cadre dans lequel il faut qu'on rentre, mais le musée, c'est une porte ouverte vraiment de liberté, d'expression, de regard et d'intimité avec les artistes qui nous ont livré tout cela.
Et puis on l'a dit, on peut forcément y trouver quelque chose qui va nous captiver. Si on n'est pas très branché sur les antiquités égyptiennes, sur les beaux-arts, sur les émaux, peut-être même sur l'histoire de Limoges, on a encore mille et une facettes là sur ces autres collections. On ne va pas avoir le temps d'en faire le tour. On va inviter tout le monde à venir les découvrir.
Oui, oui, la palette des œuvres ou des objets proposés est très très large. Les époques qui sont couvertes sont très importantes aussi. Donc je pense qu'en effet, chacun peut trouver dans un petit coin quelque chose qui va lui parler, qui va le faire vibrer, qui va lui donner des idées. Et c'est tout l'enjeu de cette présentation.
Donc on trouve des pierres, des pièces, des livres, des insectes.
On trouve de tout. Tout n'est pas forcément exposé, mais ça, on en parlera demain.
Exactement. Demain, rendez-vous en réserve. Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine consacrée au musée des Beaux-Arts installé à Limoges au pied de la cathédrale et que nous découvrons, parcourons au sens propre avec Véronique Notin, conservatrice depuis 1988. On a quitté l'univers des collections, on est descendu quelques mètres sous nos pieds, Véronique, pour parler cette fois-ci bien des réserves, puisqu'évidemment, aussi vaste que soit le musée, on ne peut pas faire loger tout ce que le musée possède, on ne peut pas tout mettre en vitrine. Ça veut dire qu'on a une grosse partie de stockage qui se passe ici.
Oui, les espaces de stockage sont inhérents à la fonction même du musée, ne serait-ce que parce que les œuvres peuvent bouger, nous avons des emprunts, nous avons toutes les œuvres ne sont pas forcément de toute première qualité non plus, ne sont pas forcément en parfait état. Donc en fait, c'est une réserve de possibles, et c'est aussi une réserve de mémoire. Et donc les réserves du musée ont été conçues pour pouvoir stocker de façon pérenne ce qui fait partie du patrimoine et des collections du musée, avec des espaces dévolus plus particulièrement aux collections de sculptures en pierre, dont nous avons un volume non négligeable. Je pense par exemple à la collection de chapiteaux de Saint-Martial, qui à eux seuls remplissent plusieurs mètres cubes. Mais nous avons également la réserve de peinture. Beaucoup d'œuvres sont encore en réserve, nécessitent des restaurations. Donc ça, ce sont des opérations qui sont coûteuses, qui prennent du temps, puisque forcément, on échelonne les interventions. Ça fait à peu près 20 ans que très régulièrement, chaque année, on a un certain nombre d'œuvres qui sont en restauration. Nous avons également une réserve dans laquelle sont des pièces, les pièces de la collection égyptienne, dont il y a beaucoup, beaucoup de tout petits objets. On en a présenté 10 d'une même série, on n'a peut-être pas besoin d'en présenter 25. Certains sont utilisés pour des présentations plus pédagogiques. Donc on essaye de hiérarchiser aussi. On a un fonds lapidaire qui n'est pas présenté et qui est une réserve pour les chercheurs qui veulent travailler sur les fonds minéralogiques. Donc voilà, on a des œuvres vraiment de statuts très divers. Qui ont été récolés, puisque au moment de du déménagement des collections, tout a été soigneusement mis en caisse, photographié, identifié autant qu'il était possible. Et ensuite, nous avons retravaillé sur nos inventaires pour bien mettre en adéquation les œuvres qui sont enregistrées et celles que nous avons physiquement en place. C'est un travail extrêmement long et important que nous ne pouvions pas mener tant que les objets étaient architassés dans ce qu'était l'ancien musée. Et donc aujourd'hui qu'on a des réserves un peu plus vastes et un peu plus équipées, on peut faire ce travail d'étude fine de chacun des objets. Alors c'est encore un travail qui va nous occuper quelques années parce que c'est très long, mais c'est tout à fait passionnant.
Et puis on a parlé de la nécessité de faire très attention quand on expose les œuvres à l'intérieur du musée. Évidemment, en réserve, on va prendre le même soin, on n'entrepose pas tout ça n'importe comment.
Alors peut-être encore plus de soins en réserve que ce qui est présenté, parce que dans les réserves, on n'a pas forcément le temps d'y aller chaque jour, hélas, parce qu'on aimerait bien pouvoir y consacrer beaucoup plus de temps. Mais du coup, il faut que les conditions de conservation soient encore plus draconiennes, puisqu'on n'a pas une surveillance quotidienne comme on peut l'avoir dans les salles.
Évidemment, et ça veut dire que les restaurations, par exemple, se font en interne ou les pièces sont forcément obligées de voyager un petit peu? Tout ne peut pas se faire ici entre les murs du musée?
Alors c'est plutôt l'inverse, tout ne peut pas voyager. Donc il arrive que des restaurateurs viennent au musée, nous avons un atelier qui a été équipé pour cela. Et puis nous bénéficions aussi à proximité, je pense à Niort par exemple, où il y a un atelier de restauration extrêmement bien équipé, avec des équipes qui supervisent des travaux, avec du coup des compétences extrêmement variées pour s'occuper de tableaux ou de dessins. Donc nous avons pris l'habitude depuis 2-3 ans de travailler régulièrement avec Niort, mais quelquefois des restaurateurs viennent aussi sur place dans notre atelier. C'est lié quelquefois à la fragilité de l'œuvre, c'est lié à la disponibilité des restaurateurs, il y a toute une série de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en effet, nous avons plusieurs œuvres là qui sont en chantier.
Ok, et à découvrir très, très bientôt. Alors justement, quand on parle de transfert comme ça d'œuvres pour restauration, quand on parle des travaux du musée qui ont obligé donc à mettre ces œuvres, à les déménager, comment on vit les choses quand on est la conservatrice depuis 30 ans maintenant? Il y a une angoisse, une appréhension?
Alors oui, bien sûr, une vraie responsabilité, parce que c'est toujours un moment un moment sensible de déplacement d'une œuvre. En même temps, c'est toujours aussi un moment d'enthousiasme, parce que déplacer une œuvre, ça veut dire qu'en général, c'est parce que cette œuvre va trouver une seconde vie, une troisième vie, une vingtième vie, pour être exposée ailleurs, ou bien pour être soignée, choyée, remise en état, soclée, et donc ensuite présentée. Donc un projet, une œuvre qui se déplace, c'est une œuvre qui est mieux connue, une œuvre qui est en meilleur état, une œuvre qui va pouvoir être montrée, et c'est évidemment l'essentiel de notre mission.
Et puis il y a une sécurisation évidemment très importante à avoir de cette réserve, mais également de toutes les parties du musée. La sécurité, c'est presque une obsession aussi, c'est très important.
Ah oui, on a le musée de Limoges a malheureusement connu en 1980 un cambriolage. Donc ça, c'est une expérience qui a été épouvantable pour mon prédécesseur, qui n'y était pour rien. C'est une catastrophe qui peut arriver et contre laquelle on fait tout pour se prémunir, évidemment. Donc on a essayé de mettre en place tous les dispositifs techniques, les protocoles d'intervention, toutes les précautions nécessaires pour faire en sorte que cela ne puisse pas arriver.
On le verra demain en revenant dans les bureaux, mais c'est vrai que même pour vous, on monte patte blanche, on ne rentre pas comme ça, comme on rentrerait dans n'importe quel bureau. Tout le monde vérifie qui passe la porte, il y a des codes, donc tout est extrêmement encadré. Et puis avant de refermer cette quatrième partie, un mot sur le choix des œuvres. On l'a dit, il y a beaucoup de choses en réserve. Qui décide de ce qui va monter? Parfois, évidemment, il y a des turnover, donc qui prend ces décisions? Comment ça se fait? Combien de fois dans l'année?
Alors ça dépend de la nature des œuvres. Par exemple, pour des œuvres graphiques qui sont extrêmement sensibles à
la lumière, la présentation ne peut pas excéder 3 mois. Ça fait partie des normes, on va dire, internationales. On peut avoir l'envie de présenter une acquisition récente. On peut avoir envie de présenter le résultat d'une recherche. Donc tout ça est lié vraiment au travail de conservation. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui nécessite, une préparation scientifique. C'est que la sélection des œuvres correspond à un propos scientifique et à une préparation matérielle des œuvres. Et donc la création d'un parcours va correspondre à quelle histoire va-t-on raconter, sur quel type de période ou quel thème on va vouloir emmener le visiteur avec nous. Donc on peut travailler sur un matériau donné, on peut travailler sur un thème donné avec des œuvres de nature très différentes, on peut travailler sur l'évolution d'un sujet dans le temps, sur des éléments d'ordre géographique. Donc en fait, les possibles sont immenses.
Et puis une nécessité que le musée change aussi pour l'attrait du public, tout simplement ?
Ah oui, le renouvellement fait partie du fonctionnement normal, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, les budgets sont compliqués à monter. Donc il s'agit aussi, avec nos forces propres, d'essayer de réalimenter régulièrement l'intérêt des visiteurs et leur montrer que nos ressources sont importantes.
Et puis cette évolution, ça vous permet vous aussi, même au bout de 30 ans, de prendre toujours autant de plaisir à vous balader dans les différentes allées, dans les différents niveaux de ce musée ?
Ah oui, ça, le plaisir, il est permanent. Et plonger dans les réserves est à chaque fois l'occasion, pas forcément d'une découverte, parce que maintenant on commence à couvrir l'ensemble des collections, mais on est à chaque fois surpris, lorsqu'on déplace une œuvre, de voir comment la confrontation de deux pièces éclairées différemment, présenté différemment, peut raconter une autre histoire. Donc en fait, le renouvellement et la surprise nous attend à chaque carrefour.
Et c'est déjà notre tout dernier rendez-vous de cette semaine, passé au Musée des Beaux-Arts de Limoges en compagnie de Véronique Notin, conservatrice des lieux depuis 1988. On a parcouru ce musée tout au long de la semaine. Évidemment, on ne vous a pas tout dit, vous vous en doutez, il y a 1001 trésors à découvrir ici. On vous invite donc à venir y faire un tour, on vous donnera toutes les coordonnées. Il y a notamment le site internet sur lequel vous pouvez préparer, entre guillemets, votre visite. Et puis bien évidemment, en dehors des collections, Véronique Notin, il y a des à côté, comme là, par exemple, la bibliothèque dans laquelle nous trouvons, qui est un lieu important. Il y a ces collections, mais il y a aussi plein de documents qui sont liés à l'univers des Beaux-Arts.
Oui, parce que le musée est aussi un lieu de recherche, et qui dit recherche dit forcément livres, documentation, et nous accueillons aussi des chercheurs qui s'intéressent à nos collections et qui s'intéressent à la documentation associée à ces collections, puisque chaque œuvre a son dossier d'œuvre dans lequel sont indiqués des éléments de comparaison, des modalités historiques. Ça dépend pour chacune des pièces, mais nous avons un accompagnement documentaire extrêmement important, et les livres sont une source d'informations première tout à fait considérable.
Alors les livres, les photos également, il y a une photothèque.
Une photothèque, la plus importante est liée évidemment aux collections d'émail, dans lesquelles il y a les photos de nos propres collections, mais aussi beaucoup beaucoup de pièces de comparaison pour ce qui est du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui nous permettent de mieux connaître nos collections et de permettre aux chercheurs spécialisés dans le domaine de l'émail, pour lesquels le musée de Limoges est vraiment un lieu de référence, de venir de façon assez efficace travailler ici dans nos ressources documentaires.
Alors justement, quand on parle de recherche et d'études de l'émail, il y a ce qu'on appelle le CEDRE ici.
Oui, c'est le Centre de documentation et de recherche sur les émaux. C'est mon collègue bibliothécaire documentaliste qui le supervise. Et c'est en effet un outil tout à fait important dans lequel chaque année on reçoit de nombreux chercheurs de France et de l'étranger, des étudiants, des conservateurs collègues qui viennent trouver là le complément d'information qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
C'est vrai que ceux qui ne s'intéressent pas à cet univers pourraient se dire, mais on sait déjà tout, donc en quoi on va chercher ? Non, il y a encore mille et une choses à apprendre, à découvrir.
Ah là là, oui, on sait sans doute, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est évident qu'il reste encore énormément de choses, et même ce qui a pu être publié autrefois est aujourd'hui considéré d'un œil un petit peu différent à la lumière d'informations nouvelles. Donc on est loin de connaître l'ensemble de la production d'émail, les objets circulent. On a parlé des collections de musées qui sont peut-être un petit peu plus fixes, Mais il y a beaucoup de collections privées aussi qui circulent, il y a des ventes publiques, donc tout cela est référencé, enfin au moins autant que possible, et donc fait l'objet d'un dépouillement de l'information, et donc cette documentation est très régulièrement enrichie.
On parlait plutôt dans la semaine du public de demain, hein, le jeune public, il est évidemment très important, et on le disait, vous avez des actions que vous menez à destination de ce jeune public pour commencer à le familiariser, à le sensibiliser à cet univers.
Oui, c'est un public auquel on est extrêmement attentif. Le regard des jeunes enfants est un regard d'une justesse, d'une précision et d'une fantaisie absolument remarquable. Donc le jeune public nous apprend aussi beaucoup de choses. Et donc donner aux enfants la possibilité d'exercer leur regard, d'exercer leur curiosité sur les œuvres, de les décrypter avec nous, c'est un échange extrêmement riche. Et cet échange que l'on peut avoir avec eux, ils peuvent l'avoir aussi avec leur famille, avec leurs parents. Donc on essaye de favoriser aussi ces échanges-là. Et ça peut commencer extrêmement jeune. Et on est en train de travailler aujourd'hui avec les crèches de Limoges. Ça fait plusieurs années qu'on a ces échanges avec des tout jeunes enfants. Et on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement sensibles à la couleur, sensibles aux formes. Donc, des enfants viennent au musée, mais on a mis en place aussi, on a vraiment fabriqué pour eux un outil fait de photographies d'un certain nombre d'œuvres du musée, avec des détails, avec des vues d'ensemble, pour exercer leur regard. Donc, ils reconnaissent très vite beaucoup de choses. Et ensuite, ils viennent retrouver tout cela au musée. Donc, ce sont des moments d'échange absolument merveilleux. Mais c'est aussi une façon de les familiariser, d'entrer avec le musée, pour que le musée ne soit pas un lieu interdit, réservé. Ce n'est absolument pas ça. Le musée est ouvert à tous et à tous les âges.
Et puis, quand on a fait venir ces jeunes ici, il y a des structures, des lieux qui leur sont vraiment dédiés.
Alors, des lieux, du personnel, des outils, puisqu'on essaye de fabriquer pour eux aussi toute une série de supports, qu'ils soient ludiques ou pédagogiques, donc c'est par le biais des classes ou par le biais d'associations, ou bien des enfants qui veulent venir faire une fête d'anniversaire au musée, on prévoit pour eux des jeux, de façon à pouvoir venir au musée en s'amusant, mais aussi en venant découvrir et les lieux, et avec un espace qui permet ensuite de dessiner, de créer, enfin d'avoir une véritable démarche ludique, créative, qui s'appuie sur des œuvres réelles. On essaye de faire des supports d'accompagnement pour tous les âges. Donc on a des petits livrets qui sont à utiliser en famille, on a des coloriages pour les enfants, on a des jeux qui sont prêtés à l'accueil ou qui sont disposés dans les salles, des puzzles ou des jeux avec des pièces aimantées à redisposer. Donc finalement, on essaye de faire en sorte que un enfant qui vient au musée avec ses parents puisse trouver un moment d'occupation, une découverte, un plaisir, au même titre que ses parents. Donc tout cela, on essaye de l'enrichir au fur et à mesure, parce que tout s'est pas fait en un jour, et les idées ne manquent pas. On a encore plein de possibles qu'on attend de pouvoir mettre en œuvre, sachant que l'idée est que tout type de visiteur trouve sa place ici dans nos murs.
Pour terminer, justement, un mot à destination de ceux qui ne sont peut-être encore jamais venus vous rendre visite, vous qui êtes là depuis 30 ans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les inviter à venir découvrir ce beau musée?
Je leur dirais, soyez curieux, venez, et le souvenir qui vous aura marqué, faites-en nous part, parce que je pense que nous serions surpris de voir la variété des sujets qui auront été retenus par chacun des visiteurs. Donc faites-nous part de ce que vous aimez et qui nous donnera peut-être des idées pour faire encore d'autres choses.